des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
On a appris vraiment une très grosse et très bonne nouvelle la semaine dernière. Le géant Netflix qui a annoncé jeudi qu'il avait acquis les droits internationaux du film Le Guide de la Famille Parfaite. Vous le savez, on en entend parler depuis longtemps. C'est un film qui devait sortir en 2020. Donc, le prochain film de Ricardo Trogi, son 7e film. Alors, c'est assez particulier la façon dont ça va se passer. Si j'ai bien compris, le film va sortir ici, au Québec, au Canada, et va sortir en même temps sur Netflix, mais à l'international. Et va être diffusé sur Netflix Canada un petit peu plus tard, après la sortie en salle ici. C'est tellement une bonne et grosse nouvelle que j'avais envie d'en parler avec le réalisateur et co-scénariste du film, Ricardo Trogi. Bonjour.
Bonjour, madame, ça va bien?
Ben moi, ça va très bien, mais vous, monsieur, ça doit bien aller depuis la bonne nouvelle. C'est pas en même temps une surprise pour toi, Ricardo, parce que déjà, le film 1991 est diffusé sur Netflix, fait que tu fais déjà un petit peu partie de la famille.
Oui, mais je tiens à préciser que, tu sais, appelons-nous les créateurs, ceux qui font les films, oui, qui les scénarisent ou qui les réalisent, on n'est pas toujours mis au courant de tout ça. T'sais. Donc, 91, moi, il m'est arrivé... En même temps que vous sur Netflix, je fais « Ah, regardons ça. »
Ah oui?
De voir cela. Oui, ça arrive des fois parce que les distributions, enfin, les distributeurs vont pas toujours nous consulter avant de faire des moves ou quoi que ce soit. Simplement parce que le film, à partir du moment qu'il est en distribution, leur appartient.
Voilà.
Puis, j'ai signé des papiers, donc c'est plus vraiment de mes affaires. Ils vont le faire par courtoisie, des fois, me prévenir ou des fois, ils le font pas. Mais au-delà de ça, ce qui est arrivé pour 91, tu sais, c'est juste, je pense, une vente un peu surprise pour moi. Puis, je pense qu'il est, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il est distribué seulement au Canada. Mais tu vois, déjà, depuis que 91 est sur Netflix, je reçois des messages Twitter, des fois, d'étrangers, ou en tout cas, surtout de Canadiens anglais qui ont vu le film, puis qui prennent le temps de m'écrire pour me dire que hey, j'ai pris ça au hasard, ça avait l'air, je sais pas pourquoi j'ai écouté ton film, mais j'adorais ça, puis blablabla.
Puis toi, tu les relais sur ton compte Twitter, oui.
Pas tout le temps, mais je l'ai fait une fois ou deux juste pour faire montrer que, tu sais, il y a un petit, ça chaîne un peu ailleurs des fois, puis ça fait plaisir, quoi.
Ouais, mais on se le cachera pas, pour un créateur, comme tu dis, ça inclut évidemment tous les gens qui travaillent dans le milieu du cinéma ou de la télé, pour un créateur, le fait d'avoir cette vitrine-là de Netflix, c'est pas juste de se péter les bretelles, c'est que quand on crée une œuvre, ben évidemment, on veut que le plus de gens possible y ait accès. Donc, le fait que le film Guide de la famille parfaite, que ça va sortir en même temps sur Netflix à l'international et ici au Québec, c'est signe quand même que tu vas avoir une audience beaucoup plus importante que si le film sortait juste ici, là.
Absolument. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir je sais pas si tu vas avoir beaucoup d'échos de ça, parce que je suis curieux de voir qu'est-ce que ça fait une sortie internationale, ce que j'ai jamais connu en tant que tel avec tous les autres films. Je l'ai connu à très petite échelle. Tu sais, des fois, il arrive avant de, je sais pas, 81, ça s'est vendu dans une couple de pays quand même. Tu sais, fait que j'ai des amis qui sont en voyage en Hongrie, puis ils ont filmé à la TV parce qu'ils l'ont vu passer là-bas, doublé dans une langue que personne comprend. Et bon, c'est amusant. Mais maintenant, sur Netflix, ça a quand même en fait, c'est la vitesse aussi.
Ouais.
Tu sais, il y a des gens qui sont branchés là-dessus, mais solides, puis dès qu'il y a des nouveautés, ils vont voir rapidement. Fait que t'as un son de cloche rapide sur ce que c'est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne connais pas Netflix, c'est nouveau, mais je sais pas si une fois que tu es rentré dans famille, appelons ça comme ça, si après, c'est plus facile, par exemple, je sais pas, moi, si dans 5 ans, j'ai l'intention de faire un film plus ambitieux que ce que je fais ici, puis là, je parle simplement de budget. Tu sais, les budgets auxquels j'ai droit, ben après, ici, ça ira jamais plus que 5, 6, 7 millions, je pense. C'est déjà de l'argent, on s'entend, mais c'est pas des films de 20 millions ou 30 millions qui me permettent d'engager n'importe qui travaille aux États-Unis, de gros stars, quoi, je sais pas. Je sais pas si ça l'ouvre une porte aussi pour ça, par la suite, pour peut-être élargir un peu mon champ d'activité. Fait que je reste très réaliste là-dessus, soit dit en passant, pour la simple et bonne raison que, comme toi, sûrement, j'ai déjà écouté du Netflix et j'ai déjà vu des fois des très mauvais films. Fait que je fais comme, gars, je vais te dire que Netflix, ils achètent, ils ont la palette large aussi, tu sais. Oui, ils aiment le film, mais... ils l'achètent, mais c'est ça. Fait que je verrai bien qu'est-ce qui va arriver avec ça, là.
Mais en même temps, on a le droit de rêver, c'est-à-dire qu'il y a des collègues à toi, il y a des Denis Villeneuve, il y a des Jean-Marc Vallée, il y a des Philippe Falardeau qui ont aussi eu une carrière et qui continuent d'avoir une carrière aux États-Unis. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu rêves de pouvoir un jour faire justement des gros films avec, je sais pas moi, Nicole Kidman, puis je sais pas, Lady Gaga?
Je te dirais moitié-moitié, je t'explique pourquoi. Un, parce que mon rêve, moi, c'était d'écrire des trucs puis de réaliser, puis que idéalement, il y a du monde qui regarde et c'est arrivé. Donc, j'ai réalisé
t'es déjà content.
Que je souhaitais le plus au monde. Oui, ouais. Très content. Pas juste un peu. Donc, je suis satisfait d'Henri. Maintenant, si tout le côté américain, international, c'est évidemment, tu y penses quand tu fais du cinéma, c'était pour ça. Mais c'était pas quelque chose auquel j'adhérais plus qu'il fallait. En fait, je souhaitais pas ça plus fort qu'il faut. Puis ça explique pourquoi j'ai pas fait d'efforts considérables, mettons, dans les 10 dernières années pour essayer de m'établir là-bas. En fait, j'en ai pratiquement fait aucun. Si ça se présente à travers un scénario qui ressemble à ça, c'est-à-dire tranquillement, tu rentres par Netflix ou je sais pas quoi, puis tu fais ta place tranquillement sans que j'aie besoin d'aller faire, j'allais dire, de la prostitution, mais tu comprends ce que je veux dire, là, de commencer à cogner à des portes, puis dire, promettre n'importe quoi, puis tout.
Ouais, tu veux pas guidonner, là. Ouais.
Non, parce que, je veux dire, ça m'est arrivé de me faire des trucs qui venaient de Los Angeles. Ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'était pas des bons scénarios, puis tu fais comme, je vais pas rentrer là-bas avec ça, puis faire une espèce de film poche qui va passer à Cinequiz, puis ça me tente pas, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais y aller avec les trucs que je fais ou j'irai pas, c'est tout, puis voilà, tu sais. Fait que je suis très heureux de la situation, mais si jamais ça s'arrêtait là, ben, ça serait pas la fin du monde. Je poursuivrais ce que je fais ici depuis toujours, puis je serais bien heureux, là.
Ben, on reconnaît là le Ricardo Troggi qu'on connaît depuis plusieurs années et qu'on aime et qu'on apprécie. Écoute, j'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait du film Le Guide de la Famille Parfaite et ben on s'en parle après.
Léo, quand j'ai grand, j'ai try like it.
Je serai médecin.
Marco!
Quand je vais être grande, je vais être première ministre.
Alors, c'est un film sur un phénomène, il n'y a pas vraiment de terme français, donc je vais utiliser le terme anglais du over-parenting, les parents hélicoptères qui sont omniprésents dans la vie de leurs enfants. Donc, le scénario, c'est Louis Morissette, c'est toi, c'est François Havard et une quatrième personne dont j'oublie le nom.
Jean-François Léger. C'est pas moi qui ai fait le scénario à la base. C'est les trois autres personnes dont on a nommé les noms. Moi, je suis rentré dans le projet quand il y avait déjà une première version. Puis comme je fais à chaque fois, ben, tu sais, j'apporte certains changements.
T'as mis ta
patte. Oui, parce que moi, j'ai un recul. Là. Ça fait 2 ans qu'ils taponnent sur un truc. Moi, j'arrive, je suis comme, est-ce qu'on peut peut-être faire ceci, cela? Puis, parce que je me souviens qu'au début, le scénario était très, très... Il tapait fort sur la tête, en tout cas, de certains aspects de ce sujet-là. Puis j'ai essayé de modérer un petit peu les choses. Ça a été ma contribution, je dirais. Puis bon, quelques scènes ici et là. Mais sinon, c'est ça, c'est l'écriture des Tour Boys là, que vous allez voir.
D'accord. Mais c'est intéressant parce que tu dis, les gars travaillent depuis 2 ans sur un projet. Toi, sur le scénario, toi, t'arrives évidemment avec ton regard extérieur. Puis tu me dis que tu l'as tempéré et ça me surprend de toi, Ricardo Troggi, parce que on le sait dans tes films qu'on a vu à quel point tu peux justement être le petit tournevis qui fait mal dans la plaie avec un humour grinçant mais toujours sympathique. T'aurais pu justement les laisser aller en tapant très fort. Pourquoi t'as voulu les modérer?
Tempérer, c'est plus dans la répétition puis la redite. C'est-à-dire quand t'as déjà fait l'exécution, la démonstration de quelque chose puis que les gens ont compris, t'as pas besoin de le faire 2-3 fois. Fait que des fois, ça arrive quand tu veux vraiment t'insister sur un message ou un sujet à travers l'écriture de scénario que tu as tendance à te répéter deux, trois fois, puis ça prend quelqu'un qui s'arrête qui va dire, écoute, je pense qu'après la première demeure, on l'avait compris, cette affaire-là, on peut aller ailleurs après. Fait que c'est juste des ajustements de ce type-là là, qu'on fait à ce moment-là.
D'accord. Alors, Ricardo, je peux pas m'empêcher de te poser la question parce que ça a été un dossier qui a vraiment ébranlé le Québec dans ses fondations. Pour ou contre le popcorn dans les cinémas? Le popcorn gate, l'avais-tu venu?
Non, moi, mon problème, c'est que j'en prends pas souvent, puis ça n'a rien à voir avec je veux pas déranger les gens ou quoi que ce soit. Je suis capable d'endurer du monde qui mange du popcorn. Puis je pense que les gens, en général, savent quand s'arrêter, puis quel genre de grosseur de bouchée prendre. Non, moi, mon problème, c'est que je mets des M&M dedans, en plus. Donc, ça devient vraiment un cocktail. Ah non, c'est écœurant, c'est super bon. C'est
tu mets des M&M dans ton popcorn? Sucré,
oui,
salé.
Tu prends du popcorn sans beurre, parce que là, ça devient dégueulasse. Tu le prends bien sec, là, un peu salé, et tu mets des M&M là-dedans, puis écoute, ça devient ça, c'est un party. Mais normalement, j'ai terminé de le manger après les previews, fait que je dérange personne.
Mais la raison pour laquelle... Plus sérieusement, la raison pour laquelle je t'amène sur ce dossier-là, c'est que la semaine dernière, quand le gouvernement a annoncé que les cinémas allaient rouvrir le 26 février, il y a différents propriétaires de salles, pas juste Monsieur Guzzo, mais d'autres aussi qui ont dit, écoutez, si vous nous permettez pas de vendre de la nourriture, ben nous, notre argent, on le fait avec le popcorn, puis les liqueurs, puis la réglisse rouge. Si vous nous permettez pas ça, on rentrera pas dans notre argent. Est-ce que pour toi, ça a été une surprise d'apprendre à quel point, finalement, dans les cinémas, la portion cinéma, c'est pas avec ça qu'ils font de l'argent? T'as été surpris?
Oui. Ben, je veux dire, comme toi, tu rentres dans un cinéplex de 18 salles, c'est immense, ventilation, chauffage, tu sais, ça sent que ça coûte cher, puis ça arrive souvent que dans une salle, on est 14, on est, tu sais, des salles de 400, ben plein, là, c'est pas la norme
c'est
pour
vrai.
Moi quand je... Donc, tu sais, je pensais pas que c'était à ce point-là. Honnêtement, je pensais que, je sais pas, je me disais que, oui, le popcorn, ça aide. En fait, c'est un plus, c'est un boni, mais au point que ça soit nécessaire, parce que, effectivement, il y a pas seulement M. Guzzo, il y a d'autres propriétaires qui ont dit, moi, ça marche pas, le sens-là. Tu sais, fait que j'ai fait d'un côté, ça me réjouit un petit peu, parce que je me dis que, tu sais, finalement, c'est pas des multimillionnaires qui font de l'argent sur notre dos tout le temps. Je veux dire, ils ont besoin d'un bon fonds de roulement pour que ça fonctionne. Fait que, je sais pas, je prends pour eux dans la mesure où c'est mes collaborateurs. Tu sais, fait que je veux dire, je vais pas cracher dans la main qui me nourrit. Donc, j'embarque avec eux dans leur truc. Mais tu sais, j'ai jamais vu de livre de compte d'un cinéma. Donc, j'y crois sur parole à ce stade-ci, de la même façon que tu le fais. Mais bon, est-ce que... Je pense que c'est vrai, du moins, en tout cas, parce que sinon, il n'insisterait pas autant que ça. Je peux pas croire, là.
Ouais. Donc, toi, le film va sortir à quelle date exactement? Est-ce que tu peux nous dire à telle date on va pouvoir aller voir Le Guide de la famille parfaite? Parce que ça a été remis, on l'attendait en 2020, puis là, il est arrivé quelque chose, je pense que ça s'appelle le coronavirus, hein? Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle.
J'ai pas entendu parler de ça, moi.
Ben, il paraît.
OK, non moi, j'ai entendu le mois de juin pour l'instant, mais ça peut encore changer dépendamment justement de cette fameuse pandémie ou je sais pas quoi. Là, fait que il visait juin, ça c'est il y a un mois. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver, je sais pas.
Est-ce que tu fais plus d'argent, toi, comme réalisateur, collaborateur au scénario, est-ce que tes émoluments sont plus importants quand le film est diffusé chez Netflix? C'est-à-dire, est-ce qu'une partie de ton salaire dépend des ventes du film? Oui?
C'est la première fois de ma vie que ça arrive que rendu à l'étape de distribution, on se comprend. Moi, seulement, je reçois un salaire. Je reçois pas ça. Maintenant, je suis rendu assez établi pour avoir une petite part producteur aussi. Mm-hmm. C'est tout des trucs qui se délient. C'est comme dans tous les milieux. Mais ça a toujours été un nom formel de la part à partir du moment qu'on rentre en distribution. C'est-à-dire, peu importe combien le film fait. T'sais, je me souviens au début quand j'ai fait Horloge biologique là, en 2005, je pense que j'ai des amis de Québec qui m'appelaient parce qu'on était rendu à 4-5 millions, puis là, on était comme, mon Dieu, tu dois être millionnaire. Je dis, non, je touche pas un sou à ça, moi. Ça, c'est les distributeurs et les propriétaires de salles. Mais tu sais, il faut comprendre que j'ai déjà été payé en avance, puis ça...
C'est ça.
En fait, on soulève ce problème-là quand on a des films à succès. Dans mon cas, ça m'arrive souvent, donc c'est une question qui se pose, tu comprends? Mais pour la 90% des cinéastes au Québec... font même pas le frais de ce que le film a
payé.
Donc, qui a eu un bon salaire, ça suffit, tu comprends? Puis il se pose plein de questions pour la suite. Sauf que moi, je me souviens que... Je vais donner un exemple précis, quelque chose d'intéressant.
Oui, vas-y.
Auquel j'ai jamais pensé signer un contrat de ma vie. Quand j'ai fait 1981, j'ai signé un contrat qui me payait bien, puis tout, mais bon, encore là, j'avais pas le droit à aucun DVD de vente ou quoi que ce soit. Puis c'est correct, c'est un peu la norme. On aurait aimé que ça change, mais je pense que Netflix va faire bouger ça. Mais là, je poursuis mon histoire. Et donc, on a 81, on a eu certains succès. On sort 87, 4 ans plus tard, et il y a un type du milieu qui me dit que quand on a sorti 87, l'été que j'ai sorti 1987, dans le même mois, ils ont loué 30 000 fois 1981. OK?
Huh.
Un film qui était déjà, je veux dire, sur une tablette, comme ça fait 4 ans qui est passé, on n'a plus besoin, on fera plus d'argent que ça. Eh bien, non. Tu vois? Puis de ça, je n'ai jamais rien reçu. Puis c'est pas, encore une fois, je n'étais pas en manque de fric, je suis pas en tabarnak. Je trouve ça plate des fois de ne pas participer au party quand il y a du succès. C'est juste ça, tu comprends?
Mais non, mais c'est un très bon point, puis tu as tout à fait raison de le soulever, puis tout le monde comprend parfaitement que tu as été déjà payé ton salaire de réalisateur.
Oui.
Il reste que si tout le monde s'en met dans les poches, et je dénonce pas, là, je suis pas anticapitaliste du tout, mais si tout le monde s'en met dans les poches, pourquoi toi, t'aurais pas aussi un anane au bout du compte, là? C'est la question. Donc, tu es en train de me dire que pour Netflix, pour ce film-là, oui, si le film est beaucoup, beaucoup, beaucoup téléchargé sur Netflix, ça va avoir un incitatif financier sur toi.
J'ai déjà été prévenu que j'allais recevoir une redevance. Je ne sais pas de quel ordre encore, mais j'ai été prévenu de ça. Maintenant, je ne sais pas si ça va avec la popularité du film ou pas, parce que je pense que la façon dont il accumule, en fait, qu'il comptabilise le clic n'est pas la même que d'autres plateformes. C'est-à-dire que je pense que dès que tu fais clic, puis si tu écoutes une minute, c'est considéré comme tu as écouté le film versus d'autres plateformes que faut t'en écouter plus. Donc, je sais pas comment ils démêlent leur truc, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai mon temps à louer parce que c'est une forme de droit d'auteur, forcément. Là. Donc, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Puis, en vivant ça, ben là, ça va peut-être créer un précédent pour les prochains contrats que j'aurai à signer, vous comprenez?
Bon, ben écoute, si on te voit rouler en Ferrari puis en Lamborghini, on saura que Netflix, c'est payant.
Ou j'ai recommencé à voler des chars. C'est un des deux.
Ah! C'est bon. OK. C'est bon. C'est excellent. Écoute, Ricardo, très rapidement, il nous reste comme une minute. Les mecs oui. que tu as réalisé, la série de Jacques oui. David, qui est disponible depuis janvier, donc à Radio-Canada. Avant, c'était évidemment sur la plateforme de diffusion. On nous annonce déjà une deuxième saison que tu commences à tourner au printemps?
Non, je commence au mois de juillet,
ah bon?
Quelque part comme ça.
Là, ouais. Voilà, tu te plaindras à Radio-Canada parce que eux, sur leur site, c'était écrit que c'était au printemps. Donc, tu commences juin.
C'était ça le plan initial, mais Yannick Truesdale, un des acteurs, un des mecs, a décroché un gros contrat qui tourne présentement en Australie pour, une compagnie américaine. Donc, voilà,
ouais.
Il retarde un peu notre processus. Oui. Ben, bon, ça arrive, des affaires comme ça, qu'est-ce que tu veux?
Ben oui, puis tu peux pas faire les mecs sans lui parce qu'il est vraiment crucial dans l'histoire. Et donc, c'est comment tourner en COVID? C'est-tu le fun ou c'était comme faire l'amour avec 4 condoms?
C'est à peu près ça, oui. C'est pas...
Ouais.
soit tu fais l'amour beaucoup de fois ou soit tu le fais une fois puis tu ressens rien. Non, je veux dire, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, écoute. C'est pas l'idéal, mais en même temps, je garde mon emploi, je travaille, fait que j'en reviens. Là. C'est juste que 13 heures avec ça dans la face, dans ce temps-là, je me mets rapidement à penser aux gens qui travaillent dans les hôpitaux ou même à ma dentiste qui passe avec ça, puis je fais comme, bon, écoute, c'est à mon tour, là, mais ça durera pas toute la vie, fait que c'est pas la fin du monde, mais c'est désagréable. Voilà.
Bon, Ricardo, merci beaucoup, c'est toujours sympathique de te parler. Ricardo Troggi, donc réalisateur de plein de films, 1980, 1987, 1991, et là, le géant Netflix, donc, qui achète les droits internationaux de son 7e film, Le Guide de la Famille Parfaite, avec Émilie Bière et Louis Morissette, entre autres. On a très hâte de voir ça en juin. Merci beaucoup, Ricardo.
Merci beaucoup, Sophie. À bientôt.
Grazie mille, ci vediamo. Ciao.